Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmeurs. Une émission qui...
Les Tontons Farmeurs. L'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission en partenariat avec l'association CoFarming, je vous le dis chaque semaine, et puis notre partenaire, le groupe Agrica, que je remercie. Alors, qui sont les tontons farmeurs sélectionnés cette semaine? Ça n'a pas été facile, mais ça y est, j'y suis arrivé, j'en ai sélectionné 4. Tout d'abord, notre premier céréalier, il est de la Marne, il s'appelle Michael Jacquemin. Michael, est-ce que tu seras le premier céréalier de la Marne à te mettre à la biodynamie? C'est pas sûr ça.
Qu'est-ce que c'est que cette question, Jean-Paul? Bonjour à tous.
Alors, si vous êtes agriculteur et qu'il vous faut un coach, pas de souci, on a ce qu'il vous faut en stock, puisqu'il faut faire appel à Johan Dumont. Il est agriculteur, mais aussi cofondateur d'AgriMind Lab. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis, j'ai envie de savoir quand même, les cultures en Côte d'Or, ça pas trop gelé, là?
Bonsoir Jean-Paul, non, tout se passe bien pour l'instant, c'est mieux que les dernières années, en espérant que ça dure.
Bon, et comme troisième tonton farmer, c'est le plus impertinent des agriculteurs, mais le plus pertinent dans les idées qu'il propose, car il pense toujours intelligence collective, et on en a besoin aujourd'hui dans l'agriculture. Il est président du CoFarming, il s'agit de Jean-Baptiste Vervy. En forme Jean-Baptiste?
Ouais, puis en plus avec la dose de cirage que tu viens de me mettre, là je suis bien.
Ouais, t'as bien payé pour ça. Et puis, je garde le meilleur pour la fin, pour tous ceux qui pourraient penser que les tontons farmeurs, ce serait un peu une émission de vieux agriculteurs machos qui évoluent pas, qui aiment pas les écologistes, etc. J'accueille notre écologiste de service. Il s'agit de Gabriel Dufour, qui, la journée, elle met des data centers dans les unités de méthanisation pour qu'ils soient refroidis par la chaleur dégagée par la méthanisation. Enfin bon, on vous expliquera, c'est tout un process. Et puis, le soir, non seulement c'est une star de Twitter parce que ça la parole est libre, et puis aussi, elle s'occupe d'une AMAP. C'est bien ça, Gabriel?
Oui, c'est bien ça. Merci vraiment, Jean-Paul. C'est aussi une belle dose de cirage. Je te remercie.
Je suis super positif aujourd'hui, je pense. Je ne sais pas pourquoi.
C'est pour Noël. Il prépare pour Noël.
Ça fait plaisir.
Exactement.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et oui, c'est une émission interactive, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous appeler, intervenir en direct dans cette émission, nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag TTF, comme Tonton Farmer bien sûr, et puis aussi sur notre chaîne YouTube Powerboost, vous pouvez poser nos questions en direct, et puis on me les donne, et puis moi je les pose directement à nos invités. Alors parlons-en d'ailleurs justement de nos invités, il s'agit tout d'abord, et honneur aux dames, de Manon Pisani, 26 ans, elle partait mal en suivant des études de droit, elle a même fait failli devenir inspectrice des impôts, c'est pour vous dire. Et elle a tout quitté, elle a tout arrêté pour revenir dans l'agriculture et même plus, je dirais, dans le cochon. C'est bien cela, Manon?
C'est tout à fait ça. Bonjour à tous.
Et vous n'êtes pas encore installée?
Et je ne suis pas encore installée.
Et je vais pas...
ça ne saurait tarder.
Et je ne vais pas vous demander pourquoi vous n'êtes pas encore installée.
Je crois que vous le savez. Non, c'est des problèmes... De compatibilité avec ma maman.
De confrontation de génération au sein de l'exploitation, c'est pas toujours facile, et on le sait. Manon, en même temps, vous êtes au bureau des jeunes agriculteurs. C'est vrai que les jeunes agriculteurs, on les a appelés pour participer à notre émission. Ont-ils mérité d'être agriculteurs? Ils ont tous fait faux bond. Ils ont dit c'est Manon qui doit y aller.
Mais je leur remercie de la confiance qu'ils m'accordent. Et oui, je fais partie de la belle famille de jeunes agriculteurs.
Et puis, vous présidez à la destinée, on va dire, d'une belle exploitation. Donc, expliquez-moi un peu votre exploitation.
Mon exploitation, là où je travaille.
En tant que salarié, on a bien compris. Oui.
Oui. Donc, c'est une exploitation assez atypique pour le Tarn-et-Garonne, qui est un département plutôt arboricole. Mais il existe une petite Bretagne au nord du département où... il y a un élevage de porcs, donc 350 truies, naisseurs-engraisseurs. C'est là où je travaille. Je gère toute la partie truies Et en plus de ça, nous transformons 50 cochons par semaine pour la vente directe.
Et enfin, notre...
À la ferme, évidemment.
Merci beaucoup. Et enfin, notre député de la semaine, à qui les tontons farmeurs vont devoir faire des propositions constructives, des vraies idées, pas des idées à 2 euros, des vraies idées, j'entends bien, des vraies propositions qui vont de l'avant, qui vont peut-être aider l'agriculture à être un peu plus fluide, à évoluer, à s'améliorer. Notre député, il connaît bien d'ailleurs le cochon, il pourra nous en parler, c'est Hervé Pelois, il est député La République En Marche du Morbihan, socialiste dans une vie antérieure. Hervé Pelois, je vous ai choisi pourquoi ? Parce que Jean-Marie Céroni, que vous connaissez peut-être, agroéconomiste, m'a dit que je devais vous inviter car vous connaissiez très très bien l'agriculture. Il n'a pas fait erreur, non ?
Non, ben en fait, quand on est né dedans, puisque je suis fils de paysan aussi, on a forcément une connaissance, études agricoles. J'ai toujours été à travailler autour des agriculteurs, donc puisque j'étais salarié d'une chambre d'agriculture, donc voilà, c'était toute ma vie a été consacrée, comme les paysans, à la paysannerie et à leur travail.
Député du Morbihan, je l'ai dit, en même temps vous êtes à la commission des finances, donc vous parlez un peu des chiffres en lien avec l'agriculture aussi.
Oui, je suis chargé du budget agricole et alimentaire. On a de plus en plus de liaisons entre la notion d'agriculture et d'alimentation aujourd'hui, hein. On essaye toujours de travailler ça en parallèle parce que ça semble extrêmement important pour notre société.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Bon, Hervé, je vous ai coupé, je suis désolé, j'ai lancé le jingle, c'était pour relancer un peu l'émission, mais vous allez avoir l'occasion de parler, vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, il faut demander à Jean-Baptiste Vervy. Alors Jean-Baptiste Vervy, chaque semaine, il lit le journal, il regarde la télé, il suit la radio et il s'énerve. Et cette semaine, il s'est énervé à quel sujet ? Me dis pas, Jean-Baptiste, que c'est encore un sujet sur les écolos, c'est toujours pareil.
Ouais, alors c'est toujours ça, je suis désolé. Bon, peut-être c'est la suite de notre émission où on s'énervait entre les écolos, mais c'est le délit d'écocide. Ça m'a énervé direct, parce que peut-être qu'il y a une bonne intention au départ, mais j'ai encore bien peur que ça soit encore un outil juridique rajouté qui sera fait pour taper sur les sujets qui sont les plus faciles. Je m'explique, l'écocide, enfin, c'est le principe de toute nuisance, on va dire, à la planète. Il va falloir, ça peut être judiciarisé. Sauf qu'en fait, il faut supprimer l'homme, parce que l'homme, à partir du moment où il met un pas sur la planète, où la moindre activité a un impact, et c'est un équilibre qu'il faut trouver dans le milieu. Donc en fait, ça veut dire que on peut plus rien faire. Et puis je pense que du coup, ça va être assez facile de prendre des sujets où on peut taper sur le dos des gens. Pendant ce temps-là, on ne travaillera pas les vrais sujets. Qu'est-ce qu'on va faire des milliers d'hectares qui sont artificialisés sous le béton, qui vont jamais revenir en production, pour lequel on a perdu aussi cette biodiversité, qu'on a perdu le pouvoir de capter le carbone? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire que les communes, on va commencer par les attaquer. Et puis, pour travailler un peu le sujet, j'ai entendu Madame Saporta dans une émission. Alors, elle a balayé un peu vite en disant « Oui, mais alors, fermer les centrales nucléaires et rouvrir des centrales à charbon pour fournir l'électricité, non, mais ça, c'est pas un problème, c'est pas le sujet, c'est pas un sujet d'écocide. » Alors, j'ai bien peur que, comme on met de côté l'aspect scientifique depuis un certain temps, ça soit encore un super sujet qui permette de taper sur la tête de corporations ou de métiers plutôt que s'attaquer au vrai problème pour lequel il y aura de la géopolitique et on voudra pas y aller.
Et qu'en pense notre député du Morbihan ?
Oui, enfin je pense qu'il y a des... Moi je préfère positiver dans la vie que de condamner, et je crois que la philosophie générale, c'est quand même d'amener les gens à faire le moins d'erreurs possibles, et on a suffisamment de sujets aujourd'hui par rapport à la transition qui est nécessaire à l'agriculture pour s'intéresser surtout à ces sujets-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, c'est d'être positif et d'arriver vers une agriculture qui soit certes plus économe en produits phytosanitaires, plus en correspondance à ce que veut la population. Bon, après, il n'y a peut-être pas besoin de parler d'écocide lorsque une station d'épuration casse en Bretagne, les paysans sont condamnés. Hein.
Et Manon, à 26 ans, on en pense quoi de l'écocide ?
Bien, personnellement, moi, je pense que c'est surtout un effet d'un an, à mon avis, pour faire plaisir à bien des personnes. Mais je trouve ça assez gênant parce que, une fois de plus, comme le disait Jean-Baptiste, la seule solution à l'écocide, si on va plus loin dans la réflexion, ben, le problème, c'est l'homme. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'à tout moment, n'importe quel citoyen peut être condamné pour écocide. Je pense que du moment où on prend sa voiture, nous sommes tous condamnables et c'est gênant.
Et Gabriel ?
Moi, je suis un peu plus mitigée que vous sur je condamnerai pas l'écocide comme vous le faites, parce que je trouve que c'est l'idée, elle est intéressante. Bien sûr, c'est le curseur qui va déterminer ce qu'on condamnera ou ce qu'on ne condamnera pas. Et je crois que les agriculteurs doivent se saisir de cette occasion pour débattre de ce qui est ou non condamnable, justement, et ce qui est. Je pense que c'est important de pas balayer d'un revers de main tout ça et de le prendre. Je pense que les agriculteurs doivent prendre la parole là-dessus.
Bon, allez, on attaque le vif du sujet. Le thème de l'émission, et ça a beaucoup fait jaser, poser des questions, c'est ont-ils mérité d'être agriculteurs ? Alors, notamment, de qui on parle quand on dit ont-ils ? Ben justement, on va pouvoir le préciser. Non, mais c'est quoi ce titre, Michael ? C'est toi qui l'as trouvé encore. Explique-nous un peu ce que tu as voulu dire par « ont-ils mérité d'être agriculteurs ?»
Bon, Jean-Paul, pas fait comme tous les soirs, je vais répondre, mais je vais répondre comme un politicien, je vais reposer une question. On peut éventuellement dire aussi, est-ce que tous les JA sont réellement installés par choix ? Est-ce qu'ils ont véritablement fait le choix de s'installer en agriculture ? Ben moi, je suis pas tout à fait sûr. Et c'est lié à la question d'aujourd'hui, en fait. Il y a le poids de l'affiliation, il y a le poids du patrimoine, il y a le poids de l'histoire. Et je pense que bon nombre de jeunes qui sont aujourd'hui agriculteurs aux manettes, ben le poids de l'histoire, le poids du patrimoine, c'est quelque chose qui porte sur leurs épaules. C'est pas forcément facile quand on est jeune. Et ben quand on veut se développer, ben Manon, elle a dévoilé des petites choses là. Elle est encore pas installée parce que c'est pas si facile que ça. Parfois, des fois, des conflits de génération. Et parfois, ben on est tenté de travailler par mimétisme parce que voilà, il y a le paternel qui est derrière. Il faut savoir casser les habitudes. Donc parfois, je pense que voilà, on travaille trop au niveau agricole dans la consanguinité. Alors c'est pas un gros mot. Hein. Il faudrait peut-être qu'on essaye d'inciter à l'ouverture au capital, à faire du métissage, à faire de l'hybridation avec d'autres corporations qui ont aussi de l'énergie, qui ont plein d'idées, qui ont des projets. Ça peut être énormément accélérateur de croissance et dans la mutation de l'agriculture, toutes les attentes sociétales, il faut que nous, agriculteurs, on évolue aussi dans nos pratiques et quand on y intègre un peu de sang nouveau, de sang neuf, d'idées nouvelles, on pourrait peut-être être un peu plus rapide. Et puis ça peut permettre aussi d'accueillir de nouveaux talents. Parce que voilà, au niveau agricole, on n'est pas les seuls à maîtriser tous ces sujets-là. Il faut qu'on s'ouvre. Alors c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, parce que ben quand on s'installe, voilà, il y a toujours aussi ce poids du patrimoine. Bon, je pense qu'il faut quand même malgré tout qu'on y réfléchisse sérieusement.
Bon alors, Michael, il a tout dit là dans l'émission. Qui prend la parole ? Hervé ?
Oui, Hervé Pellois. Là, ouais. Ça peut être aussi dans d'autres professions. Hein. On n'a pas que les agriculteurs qui essayent de transmettre leur outil à leurs enfants, hein. Je crois que ça s'est vu dans d'autres professions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'installer agriculteur quand on n'a pas de foncier, quand on doit tout démarrer à zéro, c'est parfois difficile parce qu'on a quand même la transmission des exploitations est quelque chose de difficile à cause de leur taille, à cause d'un foncier qui est difficile à trouver parfois. Enfin, on a aujourd'hui des jeunes qui sont issus d'autres milieux qui veulent s'installer, notamment en production biologique, souvent pour faire de la vente de la vente sur les marchés et autres. Et on voit que même pour trouver 4-5 hectares pour faire du blé, pour devenir boulanger, paysan boulanger, c'est quelque chose de difficile. Donc c'est vrai que les agriculteurs ne font pas forcément non plus très confiance à à des gens qui sont issus d'un autre milieu que leur milieu familial.
Rémi M, justement, réagit sur Twitter en disant « Michael, il faut distinguer... » Pardon, Michael. « Il faut distinguer patrimoine de l'entreprise. » Michael, je te donne la parole.
Ouais, parce que forcément, aujourd'hui, là, moi, ce que je sous-entendais, c'est éventuellement l'association. Et aujourd'hui, on sait, quand on s'associe, c'est quasiment un contrat de mariage. Et quand on signe un contrat de mariage, une association, réfléchir déjà d'entrée à potentiellement si ça peut pas forcément bien se passer, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir, peut-être savoir mettre des dispositifs qui donneraient de la souplesse dans la possibilité de rentrer assez facilement et de sortir aussi assez facilement. Les règles du jeu, elles peuvent être identifiées facilement. Mais c'est vrai que tous ces jeunes qui sont pas de notre milieu, qui rêvent d'y rentrer, c'est dommage de ne pas pouvoir les accueillir et d'être facilitateur dans l'association avec des jeunes qui sont du milieu, qui ont le patrimoine, qui ont un petit peu d'expérience, évidemment. Mais voilà, l'idée, ce serait celle-ci, c'est vraiment d'être incité et favoriser ce métissage et cette hybridation.
Alors, justement...
Après, la difficulté qu'il y a aussi pour des... Par exemple, Monsieur le député donnait l'exemple de personnes qui voudraient faire du pain, etc. La difficulté, c'est aussi pour ces personnes-là de se dire, je vais m'intégrer à une exploitation plus grosse que celle que je pensais et créer un atelier au sein de cette exploitation.
Oui, tout à fait.
Ça pourrait être une solution. Pourquoi toujours créer une nouvelle exploitation?
Je pense que là, il y a des outils qui permettent quand même de faciliter l'installation, et ça en fait partie.
Oui, mais je pense que Michael dit qu'il n'y a pas d'ouverture suffisamment, Michael. Ou Johan.
Oui, donc juridiquement, il y a certainement les outils. Ils sont pas forcément peut-être adaptés à nos activités agricoles, parce qu'il y a toujours cette notion du patrimoine. Mais il y a aussi la psychologie et le travail collectif. La culture, voilà. Donc ça, il faut travailler là-dessus, il faut inciter. Alors, des mesures, il faut peut-être y réfléchir. L'incitation à l'installation par l'association. Et un mixage entre des jeunes issus du milieu agricole et puis des jeunes qui sortent de milieux urbains ou hors milieu agricole et qui pourraient permettre d'obtenir vraiment des belles réussites. Des belles réussites. Ouais.
Manon, on vous a pas entendu sur le sujet.
Non. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Malgré tout, on voit quand même de plus en plus de jeunes qui s'installent, qui sont non issus du milieu agricole. Et ça, je pense que c'est plus que bénéfique pour notre filière, secteur d'activité. Appelons-le comme on veut. C'est des talents nouveaux, des idées nouvelles, une vision nouvelle. Et ça, c'est plus que. Je trouve plus mes mots, mais
difficile.
Non, je trouve ça justement c'est top de l'ouverture d'esprit sur une ouverture d'esprit différente sur notre vision du métier et sur nos façons de travailler. Je trouve ça formidable et ces associations elles seront possibles. Je pense que ça passe une partie par l'éducation. Il faut que nous, personnes issues du milieu agricole, qui avons un patrimoine familial derrière, il faut qu'on soit formés et qu'on nous incite à nous associer avec des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole.
Ah ben
c'est un peu... C'est, honnêtement, là, on est entre tontons, là. Bon, on se fait plaisir, mais franchement, la corporation agricole, je le fais exprès pour mettre les pieds dans le plat. On n'est pas ouvert à ça, hein. Honnêtement, dès qu'il y a des projets qui sortent on a tous été un peu plus ou moins proches des organisations agricoles. Dès que ça sort un petit peu, c'est un peu plus original. Dès que ça sort des standards, dès que vous faire un peu de diversification, dès qu'on vient pas d'un sérail agricole, c'est quand même ultra compliqué et le monde agricole est quand même fermé. Alors, je le dis en mode provoque, hein, parce que je suis quand même assez ouvert d'esprit plutôt, mais honnêtement, faut pas qu'on ait un discours entre nous sympa. Si on traite vraiment le sujet, la profession, elle est quand même hermétique, elle peut être consanguine, ce qui peut la freiner à évoluer d'ailleurs.
un peu conformiste. Et d'ailleurs, Mathieu Gramont nous dit en direct là sur Twitter, « Je suis futur agriculteur hors cadre et c'est cette difficulté d'installation qui a fait que j'ai décidé de créer mon exploitation car en reprendre une est vraiment trop dure et trop chère. » Et Nicolas B nous dit « De partir de zéro et créer son exploitation est beaucoup plus valorisant que de reprendre du capital social.
Ah. » Tout à fait. Pour une petite histoire, puisqu'il faut raconter des histoires aussi dans votre émission, là, j'ai participé au mariage d'un fils d'un ami. Et le maire du village, parce que ce copain en question, il était ingénieur agro, il s'est installé dans l'Aude, et un petit peu à la période babacool dans les années 70-75, et le maire du village disait que heureusement que ces babacool étaient arrivés parce que tout le monde aurait crevé dans le secteur, alors qu'ils ont réussi à redynamiser tout le secteur agricole dans cette partie de l'Aude qui dépérissait totalement. Donc on a besoin de gens nouveaux, quoi. Absolument tout faire pour faciliter l'intégration des gens qui viennent de l'extérieur.
Et vous savez que moi, la semaine... Oui, pardon, Johan, vas-y.
Ouais, à côté de ça, faut que l'écosystème soit super prêt. Moi, je vais citer mon cas personnel. Au début des années 2000, quand je me suis installé, je suis arrivé à la chambre d'agriculture en disant, je reprends pas un seul hectare, je vais faire de la bière. Le projet ne rentrait pas dans les cases. J'ai été reboulé direct. Et on m'a dit, bah non, ça peut pas être une installation aidée. Alors que je reprenais pas d'hectares, ça libérait du foncier pour d'autres projets, etc. Mais d'un autre côté, c'est va à la chasse aux hectares et puis là on t'aidera.
Ouais, c'est ce dont parlait Jean-Baptiste.
Tout le monde suivait, mais c'est l'écosystème agricole qui disait non, ça correspond pas à la volonté du moment.
Alors, justement, vous savez, pendant la semaine on bosse et puis comme on savait qu'on avait un sujet à traiter, ben on a trouvé l'agriculteur justement qui va montrer la complémentarité à aller chercher une installation, un installé nouvellement dans son entreprise. Il s'agit de Guillaume Pagès. Il est agriculteur dans le Quercy. Vous allez voir comment il voit la chose.
Alors moi, je suis sur une exploitation céréalière spécialisée sur la semence et nous sommes en train de nous développer sur les légumes en plein champ. Et mon père ayant 59 ans et étant GAEC avec lui, on cherche à installer une personne avec nous, un nouvel associé, donc Alexandre, que nous avons trouvé. Et ça nous permettrait de prendre un peu de hauteur, du recul et d'être à nouveau deux sur l'exploitation à terme avec la retraite de mon père. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexandre est hors cadre familial, donc il a une vision différente des choses par rapport à la nôtre, et c'est vrai que c'est très enrichissant d'avoir son point de vue, et on est chacun plus ou moins performant sur un thème, sur l'autre, et c'est très complémentaire de travailler ensemble.
On le voit, ce côté enrichissant, là. Michael, c'est à toi de proposer une idée à monsieur le député, une idée qui va justement généraliser peut-être ces bonnes idées.
Non mais c'est vrai que moi je peux témoigner aussi, j'ai quelques exemples d'exploitations qui ont ouvert au capital avec des installations hors cadre familial. Systématiquement, ce sont des exploitations qui se sont développées, qui se sont diversifiées, qui sont pas restées même pied dans le même sabot, quoi. Ça c'est clair. Donc il y a véritablement un intérêt. Mais après, il faut aussi le petit coup de pouce. Et moi je pense que le petit coup de pouce, il pourrait être, alors on aime bien ça en France, les exonérations, les fameuses exonérations. Alors moi j'avais réfléchi à un EMC.
On connaît bien le Marnais là.
L'agriculteur Marnais, je dirais même. Pardon Michael, on t'a coupé, t'étais bien parti.
Ouais, vous êtes dur avec moi quand même. Donc une EMC, une exonération pour métissage au capital.
Voilà,
ça c'est mon idée du mercredi soir. Donc je porte ça haut et fort auprès du Parlement.
D'accord, mais explique-nous comment on ferait concrètement.
On aiderait potentiellement, peut-être avec une exonération sur les impôts sur le revenu sur les premières années. On a créé des ZRR. Zone de revitalisation rurale. Moi, je pense que ça mériterait également une petite accompagnement et pour véritablement ouvrir l'agriculture, donner du sang neuf et accueillir de nouveaux talents qui ont aussi le droit et qui ont aussi la possibilité de se développer dans notre beau métier.
Voilà, pour permettre aux jeunes qui viennent d'ailleurs de pouvoir intégrer directement, pourquoi pas, le capital des exploitations, peut-être une forme d'incitation. Hervé, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, à votre avis?
Sous forme de crédit d'impôt, ça peut sans doute s'imaginer, mais personnellement, je pense quand même que il y a des formules qui existent avec la mise en place de GFA, de choses comme ça, qui sont quand même aussi une association au capital foncier. Donc, faut trouver peut-être dans les outils qui existent aujourd'hui ce qui peut fonctionner, parce que les crédits d'impôt, on est un petit peu fatigué d'en donner à l'Assemblée nationale.
Après, si je peux me permettre de réagir sur la proposition de Mickaël, c'est faut quand même qu'on arrive à quelque part à dépoussiérer si on veut aussi accélérer l'innovation dans l'agriculture. Et moi, je fais quand même un parallèle avec ce qui existe dans le monde des startups. Dans le monde des startups, quand on a une idée, bah, des fois on n'a pas d'argent. Enfin, souvent, c'est un peu comme ça. Et vous avez des gens qui vont venir investir temporairement. Et il y a deux profils de gens qui vont venir. Ceux qui vont venir pour voir ce que vous êtes en train de faire dans leur propre intérêt pour développer quelque chose chez eux, ou ceux qui vont venir aussi avec cet intérêt-là, mais en plus en parrainage, en disant « moi j'arrive avec une compétence et je vais t'aider pour progresser et se compléter ». Et en fait, ça c'est commun dans le monde des startups, et pour rebondir sur l'idée de Mickaël, je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas être commun et encouragé à ce que entre des agriculteurs ou avec des installations progressives, même si certains auditeurs ont dit que c'était pas de la vraie installation, parce que ça permet d'accélérer les exploitations, ça permet d'entreprendre des projets. Et par rapport au thème que l'on a, on a des gens qui se sont installés, c'est très bien pour eux, ils font leur carrière, mais ils sont conducteurs de tracteurs. Ils développent pas l'entreprise, ils développent pas le capital, ils développent pas la performance, et l'entreprise, à un moment donné, elle est pas, enfin, on peut plus la céder parce qu'elle génère plus rien, quoi. Et donc là, c'est quand même l'idée de booster la performance, les idées, l'innovation. Et comme ce qui se fait dans les startups, bah de l'amener, une espèce d'open innovation, de l'amener dans l'agriculture.
D'accord. Il faudrait creuser, bien sûr, la forme. Enfin, mais il y a déjà des choses qui existent. Hein. Moi, dans ma communauté d'agglomération ici, on a des avances qui sont remboursables, qui sont données. Il y a de l'argent qui est disponible pour des jeunes qui s'installent, aussi bien agriculteurs qu'ostréiculteurs que pour d'autres métiers. Donc il y a plusieurs possibilités d'obtenir des fonds. Et bon, faut quand même pas oublier aussi pour ceux qui s'installent dans un système qui est reconnu au niveau européen, il y a quand même la DGA, quoi.
Oui, mais Hervé, ça, c'est l'ancien monde, c'est s'installer en tant qu'agriculteur chez soi. D'accord. Peut-être que là, il faut insérer dans le capital des jeunes nouveaux, enfin, pour essayer de compléter les compétences, justement. C'est différent, hein.
Non, mais pour ce qui concerne l'investissement, de gens extérieurs, pourquoi pas, mais il faut réfléchir à tout ce qui peut exister comme possibilité aujourd'hui de recevoir du capital pour s'installer. Il y a différentes
Donc,
méthodes.
Hein. Hervé, il nous faut un verdict. Après, on garde ou on garde pas?
Je suis toujours un petit peu méfiant par rapport à ceux qui ont de l'argent et qui veulent profiter aussi peut-être du système national. Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on essaye de trouver des solutions où c'est pas toujours l'État qui paye. Enfin, l'État encourage, l'État fait un tas de choses, mais ça peut aussi être il ne faut pas toujours chercher à rentabiliser au mieux son capital.
Après, je pense que ce n'est pas qu'une notion de rentabiliser le capital, c'est encore une fois, comme dans d'autres secteurs, c'est d'encourager à ce que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que le renforcement de deux compétences peuvent aller plus loin. Johan, il disait tout à l'heure que quand il voulait s'installer, il voulait faire de la bière. Bah, peut-être qu'en tant qu'agriculteur, on pourrait prendre ce projet bière, ça pourrait être vachement bien de s'associer avec quelqu'un qui a été commercial toute sa vie, qui est aussi agriculteur ou pas agriculteur, et que sa bière, elle bricole pas dans un coin, mais du coup, elle se développe comme une vraie activité agro-industrielle de territoire, et qui génère 2, 3, 4 emplois plutôt que de bricoler. C'est ça que ça doit générer.
Et derrière, c'est tout le monde qui y gagne. Derrière, c'est tout le monde qui y gagne, l'État, la MSA et tout l'environnement local.
Et au bureau des GIA, on prend.
Il y a de la plus-value qui est générée.
Oui.
Et je comprends. Mais la réticence que j'avais, si vous voulez, c'est toujours, c'est un petit peu par rapport à, au système sociétaire aujourd'hui, qui est quand même une, qui par rapport au foncier, présente quand même beaucoup de, d'inconvénients sur le fonctionnement des SAFER, sur la, leur capacité à redistribuer les terres. On a aujourd'hui.
Ah, la SAFER!
C'est pas le même sujet. Mais ça me faisait sans doute trop penser à ça.
Bon, mais non,
moi je pense. Vous avez dit le mot qui fâche, hein. Ouais. Michael, il est la SAFER.
La SAFER, faut pas y en parler. Et au bureau des GIA, est-ce qu'on prend cette idée?
Mais écoutez, moi je l'entends et mon avis, je vais vous donner mon avis personnel
sur la
question. C'est que
du bureau.
Ah non, faut s'engager.
Non, est-ce que le bureau va retenir cette idée au GIA?
Retenir, en tout cas, il va l'étudier parce que bon. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que compte tenu de la complexité du métier d'agriculteur aujourd'hui, on peut pas se priver de la mutualisation des savoirs et comme, enfin, je pense que l'exemple de la bière, c'est un bon exemple. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un qui a un profil de commercial pour améliorer nos techniques de vente et tout ce qui en découle derrière. Enfin, on va pas se mentir, vous le savez comme moi, les prix agricoles, c'est pas la folie. Et si quelqu'un a la bonne méthode pour mieux commercialiser les produits, ben moi j'encourage, je dis oui. Et personnellement, si j'avais l'opportunité, je me priverais pas. D'un profil comme ça, hein, ouais. À mes côtés pour m'aider tous les jours, quoi.
Bon, justement, c'est Nicolas, ça,
Jean-Baptiste. Plein de cas comme ça. Moi, je connais des exemples, c'est pour donner la balle à Gabriel. Toujours par rapport au thème de la soirée, se dire, bah voilà, t'es exploitant agricole, t'as plutôt un profil, alors c'est pas pour être péjoratif, mais plutôt chauffeur de tracteur que véritable chef d'entreprise, visionnaire, entreprenant, mais c'est pas grave, mais si t'es capable de le reconnaître, tu peux faire venir au capital quelqu'un qui par exemple va développer la méta chez toi. Alors je sais pas si Gabriel ça s'est déjà passé, mais moi je connais des copains qui c'est grâce à ça qui du coup ils dopent leur ferme parce que eux-mêmes n'étaient pas capables de le faire, mais grâce à quelqu'un d'autre ils accélèrent leur ferme, et donc dans la méta je pense que ça existe, Gabriel.
Alors, dans la métallisation, ça reste quand même des histoires familiales, des GAEC familiaux qui, avec une transmission, enfin, de ce que j'en connais, tout ce que je connais, c'est souvent, je suis désolée sur ce modèle, peut-être qu'il en existe. Alors, de plus en plus, on a quand même affaire à des projets de groupe d'agriculteurs, hein, des projets que ce soit 4, 5 ou plus, ou 15, 20 agriculteurs. Donc là, on est sur du collectif, des projets collectifs qui ont des dynamiques collectives, d'intelligence collective, avec des mutualisations en effet des savoirs et des compétences. Ça, c'est vraiment intéressant. Après, sur la majorité des méthanisations en France, c'est plutôt sur un modèle d'une famille, un GAEC familial adossé à une à un élevage, et là on est plutôt sur, on retombe un peu sur les problématiques de transmission, mais voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand même que souvent justement avant la transmission, il y a la méthanisation peut être un moyen de dynamiser, de redynamiser l'élevage et de redonner un peu de peps à cette agriculture, à cette parfois qui est un peu cet élevage qui peut être un peu morose, qui peut être un peu enfoncé dans ces problèmes économiques, et ça peut être un bon coup de tête, ce qui permet de avant la transmission aux enfants de redonner de la force
Merci Gabriel. Merci beaucoup Gabriel. Et avant que le Maradona là de la passe Jean-Baptiste Gervi reprenne la parole, je voudrais juste dire qu'il y a Rémi qui nous écoute. Est-ce que Rémi nous entend?
Oui, bien sûr.
Ah, alors Rémi, ça fait un quart d'heure qu'il patiente. Rémi, en 2 minutes maximum.
Alors, en 2 minutes, moi j'ai fait une installation hors cadre familial.
En Alsace?
Non, hors cadre familial et hors région même.
Ah oui.
Après, je suis revenu en Alsace avec mon frère, enfin bon, bref. Le problème serait même peut-être plus simple. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne suffirait pas de replacer les éléments dans leur contexte et plus rester accroché à hier? Hier, l'agriculture est très patriarcale. Généralement, le plus, le plus bête, entre guillemets, rester à la maison et continuer. On reste un peu sur ce genre de schéma.
Ouais.
Donc, les successions familiales, parce qu'il y a aussi un problème de succession là-dedans. Quand vous faites une installation hors cadre familial, vous payez le vrai prix. Quand c'est successoral, vous payez la moitié du prix ou encore beaucoup moins. Donc, est-ce qu'il serait pas temps de reconnaître vraiment l'agriculture comme une vraie entreprise avec des fonctions dédiées? Parce qu'il y a des JA qui sont installés ou qui veulent s'installer, qui sont plutôt tractoristes. Alors, c'est pas péjoratif. Bien au contraire, c'est très valorisant même. On a plutôt dévalorisé ça, mais c'est dommage. Parce qu'on reste attaché sur l'image de l'ouvrier agricole d'antan. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et manager une entreprise, c'est plus la même chose que le grand-père qui faisait ça à l'époque. Mmh. Donc, est-ce qu'il faudrait pas déjà avoir une autre vision globale du monde agricole et des différents intervenants? Et c'est justement, c'est ce qui ferait venir d'autres talents ou mettrait en valeur des talents.
Bon, merci Rémi pour être intervenu. Qui répond à Rémi?
Moi, je veux bien lui répondre. Je veux bien répondre à Rémi.
Manon.
Non, mais aujourd'hui, le secteur agricole, il se professionnalise de plus en plus quand même, on remarque bien. Et je pense que le jeune qui s'installe actuellement sans la vision, sans une vision d'entreprise, c'est de la folie. On a des métiers qui sont de plus en plus complexes, on nous demande de plus en plus de compétences dans des domaines que nos grands-parents ignoraient peut-être avant, ou du moins s'ils y prêtaient pas autant d'attention, mais la vision d'entreprise est hyper importante pour le jeune qui s'installe.
Ça, c'est pour ça que le comptable c'est pour ça que c'est le comptable qui décide quand on peut acheter une machine ou pas. C'est quand même un problème.
C'est un vrai problème, ça.
C'est un problème.
Il y a quand même, faut voir que dans les nouveaux agriculteurs qui s'installent, il y a quand même un niveau de formation qui est assez remarquable. Enfin, il faut on n'est plus dans la situation d'il y a 20 ou 30 ans à ce niveau-là.
Alors, depuis le début, on a beaucoup parlé de faire du tracteur ou pas. Et justement, il faut que je vous fasse écouter cet agriculteur. Il s'agit de Julien de Petri. Il est justement dans le Tarn-et-Garonne. Manon, je crois, tu le connais. Enfin, je te tutoie, tu le connais. Et Julien de Petri s'est installé avec 0 hectare. Et puis, il va vous expliquer que lui, justement, il a fait attention de ne pas faire trop de tracteurs pour réussir. Et ça marche.
Donc, je suis agriculteur en Tarn-et-Garonne et je fais essentiellement du blé tournesol et colza, que je transforme donc le blé en farine et le colza et le tournesol en huile. Et il faudrait qu'on soit bien formé pour avoir l'idée de faire une transformation de nos produits pour arriver à les revaloriser. Par contre, qui dit transformation dit une grosse charge de travail. Donc un agriculteur, ce qu'il aime, c'est faire du tracteur. Et aujourd'hui, la partie tracteur, c'est ce que je fais presque le moins. Aujourd'hui, c'est la partie transformation, commercialisation, suivi clientèle, facturation. C'est ce qui prend le plus de temps. C'est un boulot à plein temps.
Et oui, et on voit que justement, il faut faire moins de tracteurs et peut-être plus de commercialisation, transformation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je défends tout à fait ça. Je crois qu'on doit se réinventer. On a des outils qui sont extraordinaires. Je veux bien croire qu'il faut en inventer d'autres. Mais les CUMA, par exemple, aujourd'hui, développent il y a toutes sortes de CUMA. C'est pas uniquement des CUMA de matériel. On peut très bien faire une unité d'huile, on peut bien faire des choses comme ça. Donc c'est à l'intérieur de CUMA, donc on a des outils qui permettent justement d'aller plus loin dans la transformation. Et on a aujourd'hui beaucoup quand même des gens qui s'installent, ont une vocation à aller au-delà de la simple production d'un produit standard.
Et pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que l'enseignement agricole va assez loin là-dessus? Manon, pardon. C'est Manon.
Non, je disais qu'on doit se... Oui, c'est Manon, excusez-moi. Oui. On doit se réinventer, c'est sûr, mais comme le disait Julien, c'est très chronophage, la partie transformation, commercialisation. Et moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que toutes nos productions agricoles françaises, qui sont plus talentueuses les unes que les autres, deviennent des marchés de niche. Ça, ce ne sera pas acceptable.
Peut-être pas, mais c'est peut-être pas l'idée. Mais il ne faut pas freiner non plus cet aspect commercialisation. Ouais. On va finir par une bonne nouvelle et on va demander à Johan, puisque c'est la bonne nouvelle de la semaine, de nous montrer comment lui, il a créé aussi une plateforme pour faire du coaching, parce qu'on a beaucoup parlé de formation, mais il y a aussi le coaching. Est-ce que tu peux nous en parler, Johan?
Ouais, donc là, on est en plein dans le thème de la semaine. Donc, AgriMyLab a été créé il y a 3 ans maintenant. Donc, ça permet dans un premier temps de former les agriculteurs par des formations actions pour qu'ils reprennent conscience de la zone de leadership qu'ils occupent au sein de leur exploitation. Souvent quelque chose qu'ils ont complètement délaissé. C'est des super producteurs, mais toute la décision, etc., est sortie de l'exploitation. Et dans un second temps, on va leur permettre de se retrouver donc dans des groupes constitués ou non. Ça peut être des agriculteurs qui ne se connaissent absolument pas. Et ils vont pouvoir travailler sur les problématiques de chacun par l'intelligence collective et le questionnement et la facilitation par une coach. Voilà. Et donc, les bénéfices qu'ils vont avoir, c'est que par résonance, ils peuvent se projeter dans les problématiques des autres participants en anticipant et en envisageant les solutions futures. Ça va leur permettre de donner une nouvelle visibilité à long terme sur la gestion de leur structure, retrouver de l'agilité dans les prises de décision quotidiennes et se reposer sur l'expertise d'un groupe de pairs de confiance pour partager et envisager des options au quotidien ou alors lors de la création d'un projet.
Manon, Hervé, bonne idée ou pas ?
Très bonne idée. Tout ce qui est collectif, moi je trouve que c'est des bonnes idées. Le développement au-dessus du talus, comme on disait chez moi, ben c'est très important de regarder ce que font les autres et d'échanger sur les techniques. J'ai participé pratiquement toute ma carrière à faire des échanges comme ça entre agriculteurs et c'est comme ça qu'ils progressaient, quoi.
Bon, et au GIA, on en pense quoi ?
Pour moi, pour GIA, bonne idée, évidemment. Je pense qu'on n'est jamais trop bien formé et trop bien informé.
Et vous savez qu'il est 19h40 et 19h40, malheureusement, c'est la fin de l'émission, c'est passé à une vitesse supersonique, on va dire. Et voilà, c'est le moment pour moi de remercier un peu tous les intervenants, même ceux qui ont pris la parole comme Rémi en nous appelant en direct, et puis n'hésitez pas à le faire. Et puis, je tenais bien sûr à remercier l'association Co-Farming, qui est partenaire de l'émission, ainsi que notre partenaire, le groupe Agrica. Et puis, vous savez qu'il y a un média qui nous relaie chaque semaine, il s'agit de Wiki Agri, c'est notre partenaire média. Et je les en remercie. Alors, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission, si vous l'avez pris en cours de route, sur notre chaîne YouTube Power Boost, donc dès ce soir d'ailleurs. Et puis aussi, vous savez qu'on va se retrouver mercredi prochain à 19h avec un sujet tout autant décapant. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Merci à tous. Merci les intervenants.
Merci. Au revoir.
Allez, bonne soirée. Et puis, on réfléchit. Au revoir.